Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et aujourd'hui je vais vous présenter l'épisode 152. Et oui, vous êtes au courant, Games in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Et de retour, voilà, deuxième épisode de la rentrée, donc en tout 152 épisodes, ça commence à faire. Et pour m'accompagner, j'ai entre autres avec moi Julie.
Et oui, toujours là, voilà. Après les premiers épisodes de la rentrée, pas brillant où j'ai raté complètement mon outro, mais bon, c'est pas grave.
Oui, ça c'est pas grave. Et avec nous, on a les deux Louis de 8 Sec Games. Salut!
Salut.
Ah mais justement, j'ai même pas demandé, est-ce qu'on dit 8 Sec Game, 8 Sec Games?
Alors c'est 8 sec.
Yeah, I sec. D'accord.
On a l'habitude de se le faire charcuter. En France, c'est habituel.
Bah oui, mais bon, c'est un petit peu obligé, quoi. Enfin, c'est au départ, c'est la langue maternelle, alors c'est ça.
Ouais, mais on est un studio international.
Ah,
Eh,
pardon!
c'est
Bah
pour
alors,
ça.
fallait mettre international, tu as un truc. Non, on aurait été foutu de dire international aussi, ouais, t'as raison.
C'est ça, ouais. Donc pour cette émission, très peu de news, hein. On va faire vite puisqu'on a des invités. Et avec Julien, alors là, on va chacun tester un jeu complètement différent. Donc là, ça sera vraiment passer du coq à l'âne. Et je vais commencer direct par quelques news. Alors, on en parlait rapidement la semaine dernière. Il y a Another Lost Phone, ce qui s'appellera donc Laura's Story de Accidental Queens, qui sortira, non, qui a sorti son jeu. Je crois qu'il est déjà disponible sur iOS et sur Android. Alors, sur Android, il va être à 2,49€ et sur iOS, à 3,49€, hein, comme par hasard, hein, légèrement plus cher. Et du coup, voilà, ça sera dans le même style que le jeu qu'avait testé Julie, c'était Lost Phone, je crois. Et du coup, faudra chercher. Enfin, il y a une histoire avec. Ça, moi, je suis pas trop. C'est pas trop ma tasse de thé, mais je sais ils sont hyper appréciés. Julie avait apprécié le concept du jeu aussi. Donc, à voir ce que la suite va donner. Je sais pas si Julie, tu fonceras dessus, mais.
Ben, en fait, ça m'avait beaucoup plu le premier. Donc là, en fonction, peut-être que je le testerai aussi, sachant que j'ai pas fini le premier parce qu'il était bien trash quand même, enfin bien hard, je veux dire, pas dans le gameplay, hein, mais dans résoudre les énigmes et tout ça. Et comme j'aime pas tricher, donc je suis pas allée chercher des solutions sur Internet, du coup, je préférais faire à mon rythme. Et du coup, j'ai toujours pas fini parce qu'en plus, bon, vu que je teste les autres jeux, que je joue toujours à mes petits jeux préférés, tu vois. Enfin bref, au bout d'un moment. Vu que j'ai aussi une vie IRL, j'étais obligée
De couper court.
de couper court, voilà.
Ok. Un autre jeu là qui est. Il est disponible sur iOS et arrive le 3 octobre sur Android. Alors, je suis en train d'y jouer là, je pense que je le testerai pour l'épisode 153. C'est Thimbleweed Park. Donc c'est un point and click. Mais je crois que c'est un des meilleurs du genre parce qu'il est déjà sorti sur PC. Il avait été financé sur Kickstarter et du coup il est même en français. Et c'est tout bonnement génial, c'est blindé d'humour. On a l'impression d'incarner, enfin c'est carrément une caricature de Mulder et Scully, avec des personnages complètement loufoques. Enfin, y a énormément de références à la culture série geek et compagnie. Les dialogues, enfin, ils parlent en anglais mais c'est traduit en français, mais c'est quand même monstrueux. Enfin, moi, je m'éclate comme un petit fou. Les énigmes sont Elles sont complètement des fois tordues, mais des fois tellement logiques. Enfin, franchement, c'est à faire, quoi. Bon, c'est 10 euros, ouais, 10,29€ sur iOS. Mais bon, à mon avis, je
Mais il a
pense
l'air
que.
chouette, hein.
Ouais, il a l'air long, donc à mon avis, ça sera bien rentable, quoi. Je crois que c'est rare, mais là, je vais parler d'un match 3 en news. Mais c'est à propos d'un film qui sort bientôt au cinéma. C'est Kingsman The Golden Circle. Alors avec le Minot, on était allé voir on avait vu le premier, on avait bien aimé, donc on attend la suite avec impatience. Et là, du coup, c'est une sorte de match 3, donc vous comprenez au minimum match 3, puisque du coup, vous avez en haut, vous avez l'écran qui est séparé en deux. Donc en haut, votre personnage, Exgui, le héros, et puis les méchants du 1, puis après, ça va bifurquer sur le 2. Et en bas, vous avez un énorme carré avec forcément des cercles de différentes couleurs qu'il faut aligner. Et là, pas forcément par 3, mais par 4, 5, 6, comme on peut. Et chaque couleur, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, correspond à des petites cartes. Genre une carte à combo spécial, donc plus je vais utiliser par exemple le bleu, plus ça va remplir la jauge de la carte bleue, et après ça permettra de faire une sorte de finish ou de super coup spécial. Ce qui est pas mal, c'est que les enchaînements, ça m'a trouvé, parce qu'ils sont quand même ultra bien faits. Notre personnage, il tire, après il fait des clés de bras, il y a énormément de références au premier film, au deuxième, pour l'instant je sais pas. Il a même son petit chien avec lui, pour ceux qui ont vu le film.
Ouais, bien sûr. Excellent film d'ailleurs.
Et du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est que donc pour un simple match 3, on peut bon free to play, mais bon, ça va, ça passe pour l'instant. Je trouve pas d'IAP à utiliser. Il suffit de, on peut upgrader donc forcément le costume de son personnage puisque bah c'est un Kingsman quoi, mais au début il est en survêt quoi. Et on upgrade son arme comme dans un RPG. En fait, il y a tous les éléments d'un RPG. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et qu'on fait par exemple 2-3 étoiles et qu'on obtient de très bons scores, on obtient de nouveaux costumes, qu'on peut ou de nouveaux personnages comme le scientifique, son boss, une fille, enfin bref. Franchement, essayez-le, c'est Kingsman The Golden Circle, c'est aussi bien sur iOS sur Android. Un bon match 3, en plus super bien foutu. Bon, franchement, impeccable quoi. Pour finir, la news est tombée tout à l'heure, donc je l'ai mis que tout à l'heure. C'est Akatu Blue, c'est un shmup dont je vous ai très souvent parlé, qui est fait par des Japonais, donc il est qu'en japonais pour le moment. Il bossait sur la traduction, donc il est sorti au mois de juillet, je crois. Il bossait sur la traduction et du coup ils ont annoncé que le jeu sera en anglais d'ici la fin septembre, donc il reste 10 jours. Ils ont gavé avancé. À mon avis, le jeu, il va avoisiner le prix japonais, donc c'est-à-dire dans les 7 euros, je sais pas, commencer sur, je sais plus trop, sur l'Apple Store, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer de prix tout le temps, donc 7,89 ou 7,99 ou peut-être 8 et des brouettes. Moi, dès qu'il sort, je le prends sur l'iPad et puis je vous en parlerai, je ferai sûrement des vidéos, mais ça a l'air plus que prometteur, quoi. Et voilà, donc j'en ai fini pour la partie news, et maintenant on va laisser la place aux deux Louis, qui vont se présenter, nous parler de leur société de jeux vidéo qui s'appelle 8sake, et ils vont nous dire ce qu'ils font, leur métier, tout ça, les jeux qu'ils ont faits.
Ok, bah écoute, je te laisse commencer, Louis.
Yes, ouais, je vais vous présenter vite fait la société qui existe depuis mai 2015, si je me trompe pas. Donc ça fait plus de 2 ans là maintenant. Pour vous résumer le concept, en fait, au début, on a créé la société, on faisait des petits jeux free to play. On a fait 30 jeux en 1 an, je crois. Donc on avait un débit qui était assez soutenu.
Ah bah oui, carrément quoi, mais vous êtes combien?
Eh ben, on est deux. Donc il y a Louis qui est avec moi là, qui est principalement programmeur. Et moi, j'ai une formation de game designer à la base. Même si on touche un petit peu à tout, c'est nos métiers de base quoi. Et on a une amie, une collègue qui est avec nous pour la partie graphique, qui n'est pas là ce soir.
En fait, ouais, le pari, quand on a lancé la boîte, c'était de sortir un jeu par semaine. Donc on arrivait le lundi matin, on trouvait un concept de petit jeu simple, et fallait que le vendredi soir, il soit sur les stores Android et iOS.
Wouah! Parce qu'avec les tests et compagnie.
Ah ouais, bah, c'était du gros gros rush.
Ouais, c'est chaud patate quand même.
Et au final, on a gardé ce rythme pendant un petit moment, je crois 1 an.
Ouais, c'est ça.
Et au bout d'un moment, on en a eu un peu, enfin, on en a eu très vite marre en fait. Et on a commencé à augmenter un peu la taille et l'ampleur des projets. Et l'été dernier, on a sorti un free-to-play qui s'appelle Rogue Ninja, qui est un petit runner d'infiltration qui est assez cool. Donc on a passé 3 mois là-dessus. Et après ça, on a suivi le jeu avec la maintenance. Et quelques mois après, on a commencé à bosser sur Time Crash, donc qui est sorti cet été, et sur lequel on a passé environ 8 ou 9 mois en tout.
Ah ouais, ben ça se voit parce que le travail du jeu est. Enfin, moi je le trouve. Bah pour ceux qui savent pas, donc Time Crash, c'est... Mais bon, j'en ai souvent parlé, puis j'avais même enregistré une vidéo sur YouTube. C'est une sorte de Mirror Edge. Donc, c'est-à-dire que vous voyez votre personnage, vous voyez juste les mains du personnage. Et vous pouvez. Donc, c'est un runner style un peu FPS. Et il faut éviter des obstacles, ouvrir des portes, faire des glissades. Enfin, il y a énormément d'actions qu'on apprend avec un tuto qui est extrêmement bien fait en plus.
Merci.
Et. Bah, de rien. Et du coup.
Mais on le dit aussi quand c'est moche, alors
Oui,
autant le dire
voilà,
quand
c'est
c'est
ça.
bien, quoi.
Non, mais c'est vrai que. En plus, c'est le jeu. Si par exemple on loupe un saut, on meurt, on peut reprendre aussitôt. C'est tac, 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 ça attaque, quoi. On repart au début du niveau et on reprend. Comme les niveaux sont pas trop longs non plus. Après, c'est du par cœur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, heureusement. Parce que ça serait aléatoire. Alors là, je pense que ça serait pire. Mais.
Ça le devient après, hein.
Ah ouais, je suis pas encore allé assez loin
Quand
alors.
tu termines le jeu, en fait, tu débloques un mode endless qui te génère une ville aléatoire à mesure que tu avances. Et là, du coup, ça devient que du pur réflexe.
Ah ouais, waouh.
Ouais, c'est typiquement le jeu qui me rend dingue, quoi.
Ouais, mais la version de base, enfin pour le mode story, si on peut appeler ça le mode de story, est plutôt déjà assez conséquente hein, en matière de niveau. Les musiques aussi, elles sont très bien. Et j'aime bien, c'est qu'on peut les choisir en plus durant le jeu.
C'est ça, on a bossé en fait avec des artistes électro qui étaient beaucoup dans ma playlist et un peu dans celle de Louis. Et en fait, on s'est dit, ben, plutôt que d'aller trouver un mec et essayer de lui faire faire des musiques qui sont dans un style qu'on recherche, comme on avait fait pour Rogue Ninja, on s'est dit autant demander à des artistes qui ont des musiques dont on sait qu'ils fonctionnent avec le jeu. Et donc, on les a contactés directement et on a parlé de ça avec eux. Ils étaient tous très contents de bosser avec nous. Donc, ça, c'était une bonne expérience.
Et du coup, donc, vous avez dit qu'il vous a fallu à peu près 8 mois pour faire le jeu.
Ouais.
Comment vous est venue l'idée justement de faire une sorte de Mirror Edge sur portable, quoi?
Ah, ça, on avait envie de faire un runner depuis longtemps en fait. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu amener une touche d'originalité à un genre qui est un peu saturé là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de runners sur le store. On est tous les deux gamers à la base, donc on s'est dit on va tenter ce petit twist de Mirror's Edge sur mobile.
Il y avait un petit côté défi dans le sens où je voulais absolument qu'on réussisse à faire un FPS sur mobile, mais sans avoir de boutons partout ou de joystick virtuel. Parce que c'est un truc que j'aime pas vraiment dans un jeu mobile, d'avoir des boutons transparents sur l'interface. Du coup, c'est un peu parti de ça, faire un runner original et en plus de ça, réussir un FPS mobile.
Ouais, puis ça marche plutôt bien parce qu'une fois qu'on a compris les commandes, ça répond au doigt et à l'œil. On a assez de temps pour, par exemple, pour sauter, surtout vers le début. Quand il y a un obstacle, on a une marge, on voit une plaque d'une couleur différente. Ça nous laisse le temps de sauter à partir du moment où on voit la plaque. Pour ouvrir une porte, il suffit d'attendre que notre personnage regarde, on va dire sa poignée, son po pardon, son poignet. Oula, je suis fatigué. Pour regarder son poignet, et puis il suffit de slider sur la droite et il tape sur l'ouverture de la porte. Enfin, tout est. C'est intuitif après une fois qu'on a en main et qu'on a bien fait quelques missions ou qu'on s'est pris quelques ratés, ça rentre tout seul quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors,
Oh, pardon, vas-y.
non, j'allais dire, j'ai un peu regardé ce que vous avez fait et tout, donc pas que les 3 derniers jeux, machin. Du coup, je me dis, mais il y en a un parmi vous qui aime pas les arbres. Il y a un truc avec les arbres chez vous, hein? Parce que The Extreme Gardener, hein, avec, enfin Gardening, pardon, avec plein d'armes, on peut couper les arbres avec des tronçonneuses, des sabres laser,
Des hamsters.
ouais, je vois, il y a une marmotte aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah, celui-là, on avait de grands projets pour ce jeu. On voulait qu'à chaque IAP, on reverse une partie des bénéfices à une association pour qu'ils plantent des arbres,
C'est chouette,
histoire de.
ça!
Ouais, on n'a pas été au bout, mais qui sait, peut-être que ça arrivera un jour.
Ah oui, parce qu'avec tout ce qui existe maintenant en assaut et compagnie.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ouais, c'est sûr. Puis même Apple font parfois des événements où tous les IAP, les bénéfices sont reversés à des associations. J'avais vu ça pour la Croix-Rouge, je crois, il y a quelques
Ouais,
mois là.
effectivement.
Il y a beaucoup de gros jeux qui avaient fait ça.
Avec un jeu par semaine, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sort un peu du cercle classique des concepts. On a celui-là où on coupe des arbres, on en a un autre qui est Extreme Dishwasher, où au lieu de faire la vaisselle, on tire dedans pour casser les assiettes.
C'est un autre concept.
C'est original, ouais.
Ça fait penser à la phrase, c'est une autre culture. Non, mais je trouve ça original. Enfin, je veux dire, c'est complètement divers et varié. On peut trouver tout. Genre, tu peux fabriquer des confins, fabriquer, remettre en place des étoiles pour faire des constellations. Tu peux adopter un chat, faire un espèce de Rogue Ninja. Ça doit être une espèce de runner aussi, ça aussi, non?
Ouais, c'est ça. C'est un petit peu dans la veine de Crossy Road si jamais vous avez joué à ce jeu-là. Sauf que plutôt que de simplement avancer et faire de la plateforme, il y a une petite composante infiltration où il faut éviter le champ de vision des ennemis, se planquer dans les arbres.
Ah ouais, pas mal.
Bah, c'est celui-là sur lequel on a passé 3 mois l'an dernier. C'était notre plus gros jeu avant Time Crash.
D'accord. Moi, j'aime bien.
Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pour faire Time Crash, par exemple?
Il y a eu beaucoup de choix sur le design. On a mis énormément de temps à fixer le design final. Je crois que le menu, chaque semaine, notre graphiste arrivait et je lui disais « Bon, bah regarde, j'ai tout refait, j'ai tout changé les écrans » et elle pétait un câble parce qu'elle se souvenait même plus de ce que j'avais mis la semaine d'avant.
Excellent.
On est passé par beaucoup d'étapes à tous ces niveaux-là.
Ouais, il y a eu énormément d'itérations qui ont été faites sur le jeu. Au début, c'était un free-to-play, d'ailleurs. On a bifurqué au bout de quelques mois, quoi. Il y avait des niveaux plus longs, mais plus courts, qui étaient faits à la main. Tout ça, ça a un peu changé. Il n'y avait pas de mode endless.
C'est ça.
On est passé par plein d'étapes. Il n'y avait pas de couleur au début. C'était tout en blanc avec des plateformes grises, il me semble. Et on a même essayé du cel shading pour le style graphique. Il y a eu beaucoup d'étapes.
Ah ouais, cel shading, ouais, ça aurait bouffé en ressources quand même, je pense. Parce que bon, sur iOS encore, il commence à y avoir quelques différences de device, mais ça va. Mais alors sur Android, vous auriez eu des plaintes toutes les heures. Ah, ça marche pas. Ça, oui, mais ça marche pas sur tout.
Ah bah, grave là.
Là, ça a été un autre gros point, l'optimisation, parce qu'on voulait, que le jeu tourne vraiment bien. On visait les 60 FPS sur les devices, même les plus modestes. Je crois que sur iOS, on a visé l'iPhone 5C minimum.
Ah ouais, quand même.
Et en fait, du coup, quand tu lances le jeu, il calcule en permanence les images par seconde que t'as, et s'il voit que t'es pas à 60, il va commencer à baisser des effets, de la résolution, mais sans qu'on s'en rende vraiment compte. On a beaucoup bossé là-dessus pour que le jeu soit fluide, mais reste beau en toutes circonstances.
Ça, c'est les secrets du programmeur là, qui livre ses techniques d'optimisation.
C'est ça, c'est du bon cru.
Ouais, mais c'est bien, c'est sympa.
Bah là, on est en train de bosser, quand on a le temps, sur une version PC. Donc, normalement, d'ici quelques semaines, on devrait pouvoir la sortir sur Steam.
Ah, carrément.
Et
j'allais vous demander sur quelle plateforme vous alliez la sortir.
Ouais, non, ça va être Steam. Je pense que on va pas faire un launcher 8-sec supplémentaire, comme tous les Origin, Uplay, etc.
Et ça, c'est une riche idée, parce qu'il y en a marre d'avoir 36 000 launchers, en fait.
Ouais, grave. Et donc, ouais, ce sera jouable à la manette sur PC, et avec des graphismes un peu améliorés, enfin, surtout au niveau de la résolution et des effets visuels. Et ça va être cool, je pense.
Bah oui, oui.
Ah oui, parce qu'alors encore en plus beau, ouais, ça peut le faire. Bon, après, en plus, à la manette, ça sera encore...
Ouais, la manette, ça marche super bien.
Ah ouais, à mon avis... j'ai pas essayé, je me rappelle pas, on peut utiliser une manette MFI sur...
Non. D'ailleurs, on s'est pris une étoile dans une review à cause de ça, parce qu'il y a un mec qui l'a acheté et qui voulait jouer avec sa manette. Du coup, je pense que quand on aura fait la version PC, je mettrai la correction dans le jeu mobile pour qu'on puisse utiliser les manettes.
Ouais, parce que bon, sur iOS, je crois qu'il y a que il suffit juste de mettre MFI ou iCAD, je sais pas, mais en général, les gars, ils sont MFI. Et puis après, je sais pas si c'est vraiment hyper chiant à mettre en place dans un jeu, quoi.
Je sais pas, on a encore jamais fait de manette sur mobile. On avait fait le plus proche qu'on a fait, c'était connecter des téléphones pour faire des manettes sur une Apple TV. On avait fait notre premier jeu Speedloop, on avait fait une version Apple TV à laquelle on pouvait jouer à 16 en même temps avec son téléphone.
Oh la vache!
Mais on l'a jamais sorti, malheureusement.
Ah bah voilà.
À cause d'un bug Unity, c'était pas notre faute, on aurait bien voulu, mais là c'était pas de notre sort.
Ok, en fait,
Vas-y.
Et une prochaine idée pour un prochain jeu?
Alors là, on est en grosse phase de prototypage. En fait, on va repartir sur des projets beaucoup plus simples. Parce que là, 8 mois sur le même projet, ça nous a vidé de notre énergie.
J'imagine.
Et donc là, on est en train de regarder des super concepts vraiment tout simples comme on faisait au début, mais avec un bon niveau de finition et de polish, des petits free-to-play fun pour des parties de 5 minutes. C'est ça qu'on vise pour l'instant.
Ah d'accord, ok, cool. Et à quand un défi, genre proposez-nous une idée à la con pour qu'on fasse un jeu dessus?
Et on a failli le faire en plus plusieurs fois, on n'arrêtait pas de. On aimerait bien avoir une communauté qui suive 8sec et qui puisse nous faire des retours sur les jeux ou nous donner des idées. C'est un truc qu'on aimait bien avant de former le studio. Cette idée de sorte de mitrailler des concepts de jeu et du coup d'en trouver à droite à gauche. Donc pourquoi pas?
Bah voilà.
Ouais, en plus ça peut être à double tranchant parce que selon ce que c'est.
Ah, le gros défi, ouais, des fois ça peut être des trucs de ouf, hein.
Ouais, après, faut mettre des limites parce que quand on était à l'école ensemble avec Louis, il y avait des game designers, level designers qui avaient les yeux un peu plus gros que le ventre pour les projets. On avait un mec qui voulait faire un MMO à la Pokémon Go. Bon, ça n'existait pas encore Pokémon Go, mais il voulait faire ça en 3 mois avec une équipe de 5.
En 3 mois!
Alors qu'on était encore à l'école, donc on a. Des fois, il y a des risques et les gens sont ambitieux.
Mais peut-être que lui, en fait, il dort pas, en fait, donc ça lui fait des vraies journées de 24 heures de
Ouais,
boulot, peut-être.
peut-être.
Je suis même pas sûr qu'avec 24 heures de boulot en 3 mois, ça aurait été faisable.
Non, déjà rien que tester les serveurs, tout ça. Oh là là.
C'est clair, il fallait les calmer niveau ambition. Mais souvent, ils se faisaient ramener à la réalité pendant les projets, pendant les cours. Quand les professeurs nous proposaient de faire un petit projet de notre côté, ils revoyaient leurs ambitions à la grosse baisse.
Oui, de bas d'un coup d'un seul, forcément.
Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ben non, parce qu'en fait, on a fait le tour, j'ai vite à poser la question que je voulais aussi.
Ben voilà, je t'ai piqué la question, t'as vu ça un peu? Bon, je suis hyper balèze, je sais lire dans tes pensées, Cédric.
Ah bah, force, il serait temps.
On n'a même plus besoin de se parler maintenant, tout passe par la communication non verbale entre nous, c'est un truc de
C'est
ouf.
beau.
Et pourtant, on est loin.
Ouais, Bordeaux-Paris, c'est pas tout de suite à côté, quoi.
C'est exact. Et donc, bah moi, franchement, ceux qui connaissent pas Mirror Edge et qui veulent découvrir un jeu dans le même style et en plus assez abordable quand même sur iOS et Android, franchement, essayez le jeu. Et vous avez essayé de tenter de faire, tu sais, une version où t'as que le premier niveau ou genre le tuto gratuit, tu vois. Comme font certains, et après tu payes pour débloquer tout le reste du jeu ou une seconde application où tu as le jeu entier.
Alors, on est en train d'y réfléchir, surtout quand on voit qu'il n'y a pas eu les ventes qu'on attendait en mode premium. Donc là, on est en train de voir si on ferait pas une espèce de spin-off free-to-play avec seulement le mode endless et moins de mouvement que, enfin, moins de capacité que dans le jeu principal. Parce que le problème de donner le tout premier niveau ou les deux trois premiers niveaux et de mettre une barrière là-bas, c'est que on distille les mouvements très lentement dans le jeu. Tu vois, on t'apprend
Ah oui, c'est
d'abord à
vrai, ouais.
sauter pendant un ou deux niveaux, et seulement après tu commences à avoir d'autres trucs, genre les slides, les portes, etc. Du coup, on prend un peu le risque que la personne se dise, bon ben, il n'y a pas grand-chose à faire.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est quand même, on a quand même un projet de free-to-play ou de démo, on va voir.
Ouais, c'est la bonne idée, ça, en général, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de prendre le jeu en main et de voir si ça te convient ou pas. Parce que des fois, moi je sais que ça m'est déjà arrivé. Genre, j'achète un jeu parce que je me dis, ouais, la démo, elle a l'air super sympa, tu vois. Enfin, tu regardes un peu la vidéo, tu regardes comment c'est foutu, tu dis, ouais, ça va être mon style de jeu. Et en fait, à prendre en main, moi c'est un cauchemar pour moi, du coup, je laisse tomber parce que c'est le truc qui me va pas, quoi.
Ouais, je comprends.
On avait un peu peur aussi du côté Super Mario Run. Je crois que c'est ça le nom du Mario qui est sorti sur iOS.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qui avait, je crois, ses premiers niveaux payants, gratuits et puis le reste payant. Et il y a eu énormément de backlash dans les reviews. Il avait énormément une étoile parce que les gens, ils voulaient que ce soit gratuit, quoi, tout simplement. Donc je pense que ça marche pour certains types de jeux plus épisodiques peut-être, mais ça peut ne pas fonctionner pour d'autres. Ça peut se retourner contre soi, quoi.
Ouais, mais bon, enfin, moi je pense que c'est vraiment, ouais, c'est du cas par cas, mais
Totalement, ouais. J'ai pas dit que Time Crash ne pourrait pas être adapté à ce modèle-là, mais on avait en tête en tout cas cet exemple parce que Mario est sorti il y a pas très longtemps avant la sortie de Time Crash, donc ça nous faisait un peu peur aussi à ce niveau-là.
Non, mais en plus, Mario, c'était sûr qu'il allait pas être gratuit, quoi. Enfin, c'était obligé, quoi.
Ouais, connaissant Nintendo, ils allaient pas brader leur mascotte, quoi. Mais bon, ils ont pas vendu tant que ça, parce ils avaient battu le record de téléchargement, mais niveau vente, il y avait que dalle, quasiment.
Ouais, il y avait un taux de conversion qui était très bas. Je l'ai plus de tête, mais en tout cas, c'était moins d'1% des joueurs, je crois, ou environ 1% des joueurs qui, si je dis pas de bêtises, qui achetaient le jeu complet.
Il était vendu à combien ce jeu complet là du coup? Parce que du coup, je m'en
Ben
demande.
maintenant, il doit. Enfin, je crois qu'il est retiré de l'App Store, mais c'était quasiment 10 balles.
Ah bah 10 balles
Ouais,
pour
c'était
un runner,
ça,
enfin
ouais.
je veux dire, au bout d'un moment, avec tout ce qui existe en ligne, même si c'est Mario et que t'es fan de Mario, au bout d'un moment, enfin t'investis pas forcément 10 balles pour ça quoi.
Il est retiré du store d'ailleurs?
Ben il me semble, j'avais vu qu'il est. Certains le trouvaient plus, j'ai pas revérifié. Qu'il était sorti de l'App Store, mais pas Google, je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais bon, c'est vrai que ça fait. Moi, j'avais testé les premiers niveaux et ça m'avait pas convaincu, quoi. Pour moi, c'était un runner de base et j'en connaissais autant, bah, mieux, quoi. Enfin, de profil surtout. En plus, c'est un one touch, quoi. Tu fais que appuyer sur le bouton au bon moment, donc pour revenir en arrière, ouais.
Ouais, c'est pénible quoi. Ah, puis des runners, enfin des endless runners, il y en a tellement, il y en a des tellement super marrants, enfin. Moi, je préfère mettre un petit peu moins cher dans un jeu qui va me plaire, mais de le payer, tu vois, complètement, ou éventuellement, si c'est un jeu, un free-to-play, de mettre un peu de thune pour les devs, quoi. Mais, enfin, pour Mario, quoi. Enfin, je veux dire, ça va, Nintendo, ils nous vendent à chaque fois des cassettes à prix d'or pour les jeux vidéo, enfin, c'est.
C'est ça.
Au bout d'un moment, il n'y a pas écrit vache à lait sur ma porte d'entrée, tu vois.
Surtout qu'à côté, il y a des jeux, ouais, comme tu dis, du même style qui sont beaucoup moins chers. Les Rayman sont très très bons. C'est un peu la même idée, quoi. C'est des runners. Ils sont vraiment excellents, quoi. À côté de ça, pour 3 euros, je crois. Hein. Et encore le dernier est gratuit.
Ouais, moi je sais qu'il y en avait quelques-uns, j'avais bien aimé en Endless Runner. Je suis pas hyper fan des Endless Runner, mais genre il y avait Jetpack Joyride que j'avais beaucoup aimé, et il y avait Ski Safari qui était énorme avec une musique trop marrante et tout. Enfin, c'était un truc de malade quoi.
C'est ça. Eh bien, comme les gars de 8sec ont beaucoup de boulot encore, on va peut-être les laisser partir. Eh bien, si vous avez un dernier mot à ajouter.
Bah déjà merci beaucoup de nous avoir invités, c'était vraiment cool.
Pas de soucis, si.
Pas de soucis.
Et puis bah gardez un œil ouvert pour Time Crash PC ou peut-être un Time Crash gratuit, on verra dans quelques semaines, on vous tiendra au courant.
Et on sera ravis de rerouter l'information.
Ok,
C'est
oui.
gentil.
Merci pour l'invite, ouais. Et on lâche pas le mobile pour l'instant en tout cas. Même si parfois c'est un peu difficile. On est content de faire des jeux et de voir qu'ils peuvent plaire aux gens. Donc on reste là. On reste là, on bouge pas.
Oh bah c'est ce qu'il faut, ne pas abandonner.
Absolument, ne pas abandonner, ne pas lâcher l'affaire.
Allez, ben bonne soirée à vous.
Merci également.
Et merci encore.
Bah merci, bon
Au
courage,
revoir.
ciao.
Salut.
Ciao.
Et donc voilà. Et bien maintenant je vais laisser la parole à Julie qui va nous présenter, je crois, Iron Marines.
Et oui, Iron Marines, ben c'est le jeu dont vous avez parlé, Cédric, dans la dernière émission, dans ses news en fait. Et après, il m'a envoyé un vieux taunt sur Twitter pour me dire, je sens que ce jeu va plaire à Julie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, effectivement, ce jeu me plaît énormément. C'est le studio Ironhide qui fait ça, bien sûr. C'est ceux qui avaient fait. Ah! Le nom m'échappe. Frontière.
Kingdom Rush.
Kingdom Rush Frontière. Voilà, purée, Kingdom, ça revenait pas, quoi. Kingdom Rush Frontière qui était vraiment chouette. Là, on retrouve vraiment un petit peu les graphismes un peu léchés qu'on trouvait déjà dans ce jeu-là. Alors, par contre, moi, au départ, je pensais que ça allait être un jeu un peu comme Kingdom Rush. Genre un Tower Defense, tu vois. Et en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un petit jeu avec des missions. Donc, tu arrives sur une planète Et tu as un héros, bien sûr. Le même principe au niveau héros que avec Kingdom Rush, où quand il prend des XP, bah, après tu peux débloquer des trucs, faire débloquer des trucs, tu peux augmenter son armure, augmenter ses armes, tout ça, tout ça. Et tu as une petite base que tu dois améliorer, où tu peux mettre des tourelles parfois, qui récupèrent de l'éther quelque chose, là. Enfin, c'est une espèce de matière verte qui te sert à construire des troupes et des bâtiments. Pour l'instant, moi, je suis toujours limitée. J'imagine que ça va être un peu comme ça tout le temps, mais tu es limitée en nombre de personnages que tu peux, enfin, de troupes que tu peux avoir. Et à chaque fois, tu as des missions. Donc, la première, ça va être bah, trouver, genre, trouve ta base. Donc, tu trouves ta base. Après, tu as plein de trucs, style, bah, là, il faut que tu rallumes le laser. Donc, au début, tu as ta première base que tu dois protéger. Après, tu dois te déployer pour. Tu dois te déployer, pardon, excusez-moi si j'ai fait un bruit.
Ouais, j'ai cru que t'étais morte, il n'y a plus de bruit. Elle s'est
Non,
étouffée.
parce qu'en fait, j'ai lâché mon push to talk parce que je viens de faire un méta éternuement, donc j'avais peur que ça soit passé pendant l'enregistrement. Du coup, tu dois trouver tes autres bases, évidemment, en survivant aux vagues de mobs qui viennent attaquer la première base que tu as. Donc à chaque fois, en fait, le but du jeu, c'est de défendre ta base. Mettre sa race au voisin d'à côté, quoi. Enfin, visiblement aux aliens, qui m'ont fait beaucoup penser aux Zergs, comme dans StarCraft, en fait. Tu vois,
Bah, c'est la référence qui revient souvent en fait, de ce que j'ai lu.
alors moi, j'ai pas du tout lu les commentaires parce que j'aime bien quand je teste un jeu avoir ma propre vision et pas me laisser influencer trop par les autres, quoi. Donc, j'ai pas du tout lu les commentaires qui étaient liés à ce jeu. Juste la vidéo m'a suffi pour aller m'y coller, quoi. En fait, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, oh là là, mais ouais, il me le faut, quoi. Donc, c'est vrai que je prends pas souvent des jeux payants, mais celui-là m'a beaucoup attiré et je regrette pas d'avoir pour l'instant mis 5 euros et quelques parce que évidemment, c'est 4,99 € sur iOS et ils ont un drôle de système de conversion chez Apple qui fait que à chaque fois on paye plus d'euros que de dollars, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, mais ça c'est normal, c'est les TVA, tout ça.
Oui, on va dire ça. Et sinon, il est à 4 euros, oui, à 4,99 € sur Google, en fait, sur le Google Play. Et enfin, le Google Store. Et donc, t'as plein de trucs comme ça, genre aller sauver l'ambassadrice qui est perdue dans un coin, donc il faut que tu protèges ta base, tu fais tout le chemin pour essayer de retrouver l'ambassadrice, tu défends le point où elle est l'ambassadrice. Pour pas qu'elle meure, et puis après tu dois la ramener un à ta base, deux à la navette pour qu'elle puisse repartir avec tes troupes. Donc c'est pas mal. Là je suis simplement bloquée sur la dernière mission de la première map en fait, parce que ça te fait des. C'est ça te fait vraiment. Ouais, t'as plein de petites missions à réaliser sur la toute première map. Et la première map, la dernière mission, je galère à fond. Donc je pense qu'il va falloir que je recommence plusieurs fois les premières missions de départ pour faire plein de points, pour pouvoir augmenter les comps de mes unités et pour pouvoir enfin réaliser. Je progresse à chaque fois, tu vois, j'en fais un peu plus à chaque fois, mais je perds quand même. C'est assez frustrant en fait.
Et niveau unité, t'as quoi comme bonhomme? Les petits
Alors,
soldats
tu as des petits soldats classiques qui pop par 3, ça te fait une unité en fait, ça compte pour une unité. Ensuite, tu as les snipers. Donc, qui tire de plus loin, évidemment. Sinon, tu as des. Alors, j'allais dire des mécaniques, mais c'est un peu. Tu as l'impression que c'est des êtres humains, mais dans des grosses armures. Alors, tu as deux types de grosses armures comme ça. Tu as celle qui fait lance-flammes, et l'autre, c'est une qui lance des petits missiles, en fait. Donc, très pratique, les grosses armures. Quand tu as des grosses unités à détruire, c'est pas mal. Par contre, c'est assez fragile, donc il faut faire gaffe si tu les laisses au contact, parce que du coup, elles n'ont pas une armure de ouf.
J'allais dire que c'est des tanks, mais en fait, non.
Pas forcément en fait. C'est bien de mixer les deux, tu vois. À la limite, tu mets ton héros plus. Et encore, ça dépend du héros, faut que tu aies un peu monté son. En plus, en fonction des héros, t'as pas toujours les mêmes comps. C'est-à-dire, par exemple, le tout premier héros que tu as, il va pouvoir de temps en temps envoyer des espèces de missiles. Et sinon, sa deuxième comp, c'est de se déployer un bouclier. Tu vois, donc c'est pas mal, ça permet qu'ils durent un peu plus longtemps et qu'ils tankent un peu. Mais ça reste extrêmement fragile tant que tu les as pas montés un peu. Voilà. Là, j'ai débloqué le deuxième héros pour essayer de voir si c'est un peu mieux. Alors, le deuxième héros, lui, il a une attaque quand il se fait encercler par plein d'ennemis. Il a une attaque tourbillonnante où il envoie des petits missiles tout autour de lui, pouf pouf, et du coup il y a tout le monde qui meurt autour de lui. Et sinon, pareil, il a une arme à distance où il peut envoyer des missiles. Pareil, ça a un cooldown par contre qui est assez important, du coup tu les utilises un peu avec parcimonie, tu te dis faut que je fasse gaffe à ce que je fais, quoi. Et tu as pour t'aider, bien sûr, tu peux avoir trois boosts différents que tu achètes avec de l'argent que tu gagnes dans les missions, en réalisant des missions, évidemment. Donc là, les boosts, ça va être, par exemple, tu peux avoir une attaque aérienne que tu peux programmer, genre, tu as plein de mobs qui arrivent, du coup, tu t'es acheté deux attaques aériennes et tu peux en balancer une. Je ne la trouve pas hyper performante, cette attaque aérienne, donc je la prends peu. Tu peux avoir une équipe de mortiers. Ils ont un petit mortier, tu les installes et puis pouf pouf. Mais pareil, ils sont hyper fragiles, donc tant qu'ils sont pas au contact, ça va, ils font pas mal de dégâts, mais dès qu'il y a des mobs qui arrivent au contact, c'est mort, quoi. Tu peux avoir des mines. Alors, des mines au sol. Ce qui est très rigolo, c'est que si t'as un mec qui saute dessus, ben elle explose et puis voilà, terminé. Mais si elle explose pas tout de suite, au bout d'un moment, ben elle en fabrique une autre qui saute à côté, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Du coup, ça se déploie tant qu'il y a des.
Ah, ça fait comme un énorme champ de mine,
Ouais,
quoi.
ça fait un petit champ de mine, enfin alors, un énorme, j'imagine qu'il doit y avoir au bout d'un moment, enfin ça doit être limité, j'imagine. Mais du coup, ça peut être pratique quand t'attends des vagues de mobs. Tu vois, quand on t'annonce que tu vas avoir des vagues de mobs sur la tronche, c'est pas mal. Ce que j'ai bien aimé, bon, alors les graphismes, le type de jeu, je me dis tiens, c'est un peu, c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un petit jeu comme ça sur. Sur mon téléphone, du coup, ça me plaît beaucoup. Et en plus, c'est blindé de références geek. J'ai fait quelques captures d'écran et du coup, Cédric vous les mettra en ligne pour quand tu réalises des hauts faits, en fait. Tu as par exemple pour l'ambassadrice, c'est Save the Ambassadrice, Save the World.
Ouais, d'accord.
Ça fait penser à Heroes, tu vois, avec Save the Cheerleader, Save the World. Tu vois, t'as quelques trucs comme ça. Et du coup, c'est assez drôle, quoi. Enfin, moi, ça m'a plu de débloquer des. Tu débloques les trucs et puis ça te fait des petites phrases à la con qui te rappellent des jeux ou des films ou des trucs comme ça, des séries. Ouais, t'as des petites références geek vraiment sympa, quoi. Et ouais, non, c'est vraiment. Il est vraiment chouette ce jeu. Je pense que la thune le vaut. Après, Cédric m'a dit qu'il y avait des gens qui se plaignaient comme quoi il fallait réinvestir des sous dedans. Très honnêtement, effectivement, de temps en temps, il te propose des packs à la vente. J'en ai pas eu besoin. Enfin, j'ai pas ressenti le besoin d'en acheter parce que bah, je me dis que c'est juste le début et que si je commence déjà à acheter des packs, enfin, bon, on n'est pas sorti le cul des ronces.
C'est clair.
Mais pour l'instant. J'ai des possibilités d'augmenter, par exemple, là il suffit que je refasse les missions de départ pour gagner un peu de thunes pour pouvoir booster mes héros tout simplement. J'ai pas encore essayé de débloquer tous les héros, j'ai pas essayé tout ça. Après, si
Ah oui, donc comme dans un RPG, tu peux refaire plusieurs fois une map pour pouvoir
absolument,
upgrade, quoi.
oui.
Ah bah oui, bah.
Alors par contre, t'as pas le système comme dans les Tower Defense où genre si tu réussis très bien, t'as 3 étoiles, si tu réussis un peu moins bien, t'as 2 étoiles, et puis si juste tu réussis la mission mais sans fioriture, t'as qu'une étoile, tu vois. J'ai pas vu ce système-là. Et tu as des missions bonus en fait qui se débloquent au fur et à mesure que tu avances sur ta map. Et par contre, à part, enfin les deux premières, je les ai bien réussies tranquille, tu vois. Et la troisième là, elle me donne du fil à retordre. Et il y en a 3, 4 ou 5, je sais plus. Du coup, je me dis que comme on gagne des plus grosses récompenses là-dedans, tu vois, si j'arrive à booster un peu mes persos, à recommencer ces missions-là, ben peut-être que je vais gagner un peu de boost et que je pourrais augmenter mes persos. Après, je me rappelle que dans Kingdom Rush Frontier, pour débloquer tous les héros, t'avais quelques héros que tu pouvais débloquer comme ça dans le jeu. À partir de tel niveau, tu peux avoir tel perso, tu vois. Enfin bref, mais en revanche, tu avais des persos où il fallait que tu investisses si tu voulais les avoir. Donc c'est peut-être ça dont parlaient les gens. Mais je ne sais pas encore. J'ai pas encore tout testé. Et donc voilà. Mais pour l'instant, franchement, je trouve que ça les vaut. Bah, je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule map. En revanche, là où je serais déçu, c'est par exemple si pour atteindre la map suivante, on me demandait de repayer. Là, je trouverais que ça ferait trop, effectivement. Mais je peux pas garantir ça. J'ai pas encore réussi la dernière mission de ma map, en fait. Donc,
Bah, t'en reparleras dans une section news rapidement.
Ouais, vite fait. S'il y a des trucs vraiment à redire là-dessus, j'en parlerai vite fait. Et puis voilà. Mais franchement, pour l'instant, je trouve que ça les vaut. Je suis contente de mon achat. Je suis contente.
Et du coup, en plus, tu joues sur ton iPhone et c'est lisible, quoi. C'est même pas sur ton iPad mini.
C'est lisible. Tu peux zoomer et dézoomer. Donc, si tu veux avoir presque toute ta map sur ton écran, tu peux dézoomer, mais du coup, c'est pas trop praticable. C'est bien quand tu veux déplacer ton personnage tout de suite. Parce qu'en fait, il faut cliquer-glisser pour déplacer ton personnage. Donc, il faut que tu le chopes et puis tu lâches ton doigt là où tu veux qu'il arrive. Et puis après, il évite les obstacles pour y aller. Donc là, tu peux dézoomer pour pouvoir l'emmener loin. Mais sinon, si tu veux bien déplacer les troupes, les mettre exactement aux endroits que tu veux, tu peux zoomer, mais vraiment zoomer, quoi. Et du coup, c'est carrément praticable sur l'iPhone, quoi.
Oh, ça va, alors.
Après, c'est peut-être... effectivement, je ne l'ai pas essayé sur l'iPad, mais effectivement, c'est sans doute très confortable de jouer sur l'iPad.
Ah oui, moi, si je vois RTS ou un jeu dans le genre, je pense direct iPad, quoi.
Oui, ben, moi, je l'ai pris parce que je ne me balade pas dans la rue avec mon iPad, en fait. C'est plus facile pour moi de l'avoir sur l'iPhone. Donc, parce que ben, dans les transports en commun le matin ou le soir, quand je rentre du boulot, ben, hop, comme ça, je peux jouer. Et du coup, c'est pas mal. Après, il y a un truc qui est très pratique, c'est que tant que tu ne l'as pas complètement enlevé des tâches de fond, si tu fais que quitter l'écran, par exemple, tu coupes ton téléphone, tu le mets dans ta poche, quand tu reviens sur ton jeu, le jeu s'est mis en pause. Et du coup, tu peux continuer ta partie où t'en étais, quoi. Du coup, c'est pratique.
Ah bah ça va si ça consomme pas trop de batterie, en plus.
Bah, quand tu joues, par contre, quand t'es en plein jeu, que tu fais des grosses missions, tu sens qu'il chauffe quand même le téléphone. Hein. Mais du coup, tu peux le mettre en pause tranquille derrière, ça passe, quoi.
Bon, bah ça va, alors.
Ouais. Ouais, donc je suis assez contente. Je trouve que le jeu vaut cette thune-là, à part s'il faut payer pour avoir la map suivante. Mais je vous tiendrai au courant de ça.
Ouais. Et oui, tu disais, ouais, donc c'est 4,99$, donc ça doit être un peu plus, ça doit être 5,29€ sur iOS, à mon avis.
Oui, un truc comme ça, ou 5,49€, un truc comme ça. Je me rappelle plus combien j'ai payé, mais pour moi, c'était pas 4€ et quelqu'un,
ouais,
c'était 5€
et
quelqu'un.
Ouais, mais c'est
Et eh ben moi j'en ai terminé avec mon test. Voilà, je te laisse la place.
D'accord. Donc eh bien moi je vais vous parler de Morphite. Sometimes when I dream I am flying through the universe. I convince myself that Morphite is real. Alors normalement, quand vous écoutez ce podcast, il sera disponible. Alors Morphite, c'est, je vous en ai souvent parlé, j'ai fait l'alpha, la bêta, j'ai même fait une sorte de pseudo-alpha où il n'y avait presque rien dans le jeu. Donc c'est une sorte de No Man's Sky, on va dire, mais plus Metroidvania avec une vraie histoire. Enfin, il y a un vrai scénario dès le départ. On incarne Mira, qui est une fille qui a grandi sur une station spatiale et qui a été élevée pas par ses parents mais par un vieil homme qui s'appelle Monsieur Mason. Et depuis qu'elle est toute petite, elle entend parler d'un objet rare qui s'appelle le Morphite. Et elle arrive à un âge où Monsieur Mason lui dit il va falloir essayer d'explorer le monde parce que en fait ils ont besoin d'argent forcément pour vivre et il faut donc aller récolter des informations ou des petits bouts d'objets ou des exemplaires de plantes, d'animaux et compagnie. Et donc pour ça, alors on a droit au début, on commence par un tuto dans le jeu. On nous présente le jeu un chat qui vole. En fait, c'est plutôt une tête de chat sur un vu que c'est en low poly avec un polygone. Avec une sorte de... Ah zut, de parallélépipède avec quatre petites pattes en polygone, quoi. Et c'est lui notre instructeur et qui nous apprend donc au début à nous diriger. Donc ça c'est simple, hein, c'est vu à la FPS. On voit pas notre personnage, on voit que les mains, donc c'est vraiment, vraiment FPS. Il nous apprend à utiliser notre arme et à sauter, tout ça. Donc hop, ça c'est fait. Après on part donc sur la première planète. Donc on embarque dans notre vaisseau. Là on voit une sorte de... C'est plutôt bien fait, on nous voit quitter la station, on voit notre vaisseau et on voit notre vaisseau qui commence à arriver au-dessus de la planète. Avec la planète, on voit légèrement si elle est bleue, verte, avec la stratosphère, tout ça. Et là, de notre vaisseau, en fait, on va être lâché par un pod, donc c'est une capsule qui nous permet d'arriver sur la planète. Et là, au fur et à mesure qu'on descend sur la planète, et là, on voit en temps réel le décor, tu sais, les paysages de la planète. La première planète, c'est une planète pluvieuse, donc j'appréhende un peu, tu vois. Après, je regarde à gauche dans mon pod parce que j'ai au moment où j'atterris et ça me donne quelques informations, la température, s'il pense que c'est hostile ou non. Bon, là le
Ah, comme Mass Effect?
comme Mass Effect, ouais un peu. Et du coup, donc là, ben, tu sors de la cabine. Alors un conseil, quand vous sortez de votre cabine, faites le tour de votre cabine et commencez à scanner ce qui est vraiment le plus proche avant de vous éloigner. Parce que sur les planètes, bon, la première planète, elle est magnifique. Pourtant, c'est du low poly, mais c'est vivant. Si tu joues avec le son, enfin, il faut jouer avec le son parce que de toute façon, t'es averti quand tu te fais attaquer. Mais donc, déjà, tu prends ton petit scanner. Donc, pour jouer, c'est hyper simple, hein, tu as le contrôle joystick qui se passe sur n'importe où sur la partie de l'écran. Donc, dès que tu poses par exemple, ton pouce gauche, eh bien, c'est un joystick virtuel que tu te promènes. Et à droite, t'as un bouton pour sauter, un bouton pour tirer. En haut à gauche, c'est le menu avec tout ton équipement que tu peux upgrader, tout ton équipement, tout ce que t'as récolté, les quêtes, la quête principale, les quêtes secondaires, toutes les ressources que t'as chopées, enfin, énormément de choses. Et en haut à droite, t'as la carte, t'appuies une fois dessus, elle apparaît en plus grand sur ton écran et tu peux zoomer sur un point précis. Très utile aussi au début, ça permet de voir certains passages qui sont fermés. Et donc au début, tu scannes comme ça autour de toi. Donc tu prends ton scanner. Pour ça, tu appuies en bas à gauche de l'écran et tu as un menu déroulant qui apparaît entre ton arme et le scanner. Parce qu'au début, tu n'as que ça. Après, plus tard, tu as un peu plus d'armement. Et là, donc tu avances. Alors, ce qui est bien, c'est que tu sais à l'avance à peu près ce que tu vas scanner, parce que quand tu passes ton scanner devant par exemple une plante, certaines sont là pour le décor et d'autres sont vraiment là pour être scannées. Tu vois un petit icône qui représente une plante, donc tu sais que tu peux la scanner. Pareil pour les animaux, les insectes, les pierres, les fossiles, tous les cristaux.
En fait, t'es là pour étudier ce qui se passe sur la planète.
C'est ça. Et en fait, à chaque fois que tu scannes une plante, en gros, tu récupères une information dessus, donc comme des micro-éléments ou autres. Et tout ça, tu pourras le revendre après. Certains
D'accord.
tu vas les revendre et d'autres que tu vas garder. Donc en fait c'est simple de faire la distinction, c'est quand tu vas revendre, il te dit est-ce que tu veux revendre tout ce qui est commun? Tu mets oui, parce que le reste va te servir à crafter par exemple améliorer ton armure, améliorer ton vaisseau. Parce que quand tu. Enfin ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc la première fois donc tu déplaces, t'avances, tu sautes, et ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas trop de limites. Donc moi au bout d'un moment je vois une pierre, bon ben je saute dessus, je monte, ouais, je vois que je peux aller plus haut, je monte, et je suis grimpé, mais jusqu'à. Je sais plus trop où. Heureusement, il n'y a pas de mort par saut quand tu tombes, tu vois. Et là, je scanne au début une sorte de stégosaure. Donc bon, mais bah, c'est gentil. Et après, je vois une sorte de monstre avec des crocs. Je commence à vouloir le scanner et là, il me fonce dessus. Je vois ma barre de vie qui descend. Oh là là. Alors, je remonte sur la pierre. J'essaye de scanner tant bien que mal, mais il est furax et il bouge. Donc, j'arrive pas à le scanner parce que tu as un temps limité pour scanner. Et ça, au fur et à mesure, tu peux l'upgrade, tu vois, tu peux l'améliorer pour qu'après, ton temps de scan soit plus court. Donc là, je prends mon arme, je tire trois coups dessus, hop, mort. Bon, bah voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a relâché un peu de HP, donc ça me l'a remonté aussitôt. Mais sinon,
Ah, c'est bien ça.
au fur et à mesure que tu marches, ton HP remonte. Donc bon.
Ah, d'accord.
Et donc voilà, tu fais une ou deux planètes comme ça. Et là, t'arrives au bout moment sur une planète où t'as une porte avec. Ah non, non, c'est même pas, je crois que c'est même pas, c'est la première planète, oui. Tu arrives donc sur cette planète, tu commences et tu te balades librement, hein, tu tues ce que tu veux, tu récoltes ce que tu veux, tu peux même aller dans l'eau si tu veux, il n'y a pas de problème d'oxygène, donc ça c'est plutôt bien.
Ah ouais, tu t'as pas de temps, tu vois pas ta
Non,
petite barre de vie qui
non,
descend quand t'es
et
sous
crois-moi
l'eau.
heureusement, parce qu'il y a des cavernes aquatiques, enfin au bout d'un moment tu rentres dans une caverne et là tu vois que tu peux aller dans l'eau, tu y vas, mais des fois il fait noir complet presque. Donc t'es comme ça, tu utilises un peu ton scanner pour, tu sais, pour améliorer, pour voir à gauche, à droite, où tu es, et après t'essaies de remonter, parce qu'heureusement, sinon ça serait totale panique. Et donc tu avances comme ça, et là tu vois une porte. Donc tu tires dessus. Une porte, tu vois, en métal, hein, dans une roche, donc c'est l'entrée comme d'une station spatiale, mais sur la planète. Donc tu rentres dedans, et là, ton pote, là, Kit Kat, le chat, il te dit, ah, mais regarde ces petits losanges, tire dessus. Au passage, le jeu est tout en anglais. Donc tu tires dessus, hop, ça ouvre un mécanisme qui fait bouger des portes et tout, et là, au fur et à mesure, t'avances. Après, tu tombes sur une pièce où il y a des cadavres, et là, ton héroïne, enfin, Mira, elle fait, oula. Apparemment, ça s'est pas bien passé pour eux, je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Et donc, en effet, quand tu enclenches la porte pour ouvrir, t'as des sortes de scarabées ou des puces, mais tu vois, en 10 fois plus gros, quoi. Comme s'il y avait eu.
Et elle te saute dessus.
Voilà, et elle te fonce dessus, donc toi, tu les tues. Heureusement, t'as des jarres un peu partout. Tu vois, comme ça fait un peu vieux temps, t'as des jarres, tu les exploses, t'as de quoi recharger ton arme parce que ton tir est pas infini. T'as de
Ah, c'est
quoi te
bien ça.
remonter ta vie, puis des fois, aléatoirement, si tu tues un ennemi, ça remonte ta vie, ou ça te lâche des items. Et là, donc après, t'arrives dans une salle, et là, tu vois le premier Morpha, enfin le Morphite, qui est, tu sais, dans un truc de glace. Et le chat, il te dit, ah ben. Donc toi, tu dis, bon, faut que je trouve un moyen pour le transporter. Et le chat, il te dit, surtout, brise pas la glace. Bon, ben moi, je tire 4 fois dessus, comme ça, la glace, elle est brisée, toute la vitrine qui entoure le Morphite. Je me rends compte que le Morphite, quand je me déplace, il me suit. Et donc, sorti de cette caverne, j'en vois une autre, où j'avais pas accès du tout parce que je voyais pas du tout ce qu'il y avait. Et il y avait l'emblème du Morphite. Je vais dessus avec. Et c'est le Morphite qui m'ouvre la porte.
Mais alors pourquoi l'autre il voulait pas que tu l'ouvres? Enfin, pourquoi il voulait pas que tu pètes la glace?
Mais parce que le Morphite, c'est un. Ce que je disais au début, c'est un objet très rare et personne ne sait trop ce que c'est. C'est un peu comme une légende, quoi. Donc personne ne connaît les véritables conséquences de ce que c'est vraiment un Morphite. Certains disent que c'est une technologie hyper puissante pour faire des armes, d'autres disent que c'est un truc pacifique, enfin voilà. Mais ça, au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu l'apprends, parce que comme tu as un véritable scénario, enfin je vais pas tout dévoiler, quoi. Et donc le Morphite, tu le suis, il t'ouvre la porte, et là, grâce à lui, tu vas dans une sorte de petite chambre, une sorte où il y a un siège, et là, ça te fabrique des grenades à ions.
Des
Et les
grenades à
grenades à
ions.
ions, ouais. Et les grenades à ions, bah, ça porte son nom, hein. C'est une grenade et ça fait très mal sur les ennemis. Et donc après, donc tu vas sur une autre planète parce que, en fait, quand t'arrives sur un point de, quand t'es dans ton vaisseau, tu vois, dans l'espace, quand t'es pas dans la station spatiale, t'as un tableau de bord. Et sur le tableau de bord, t'as la map. Et t'appuies sur la map et souvent t'as un soleil, des fois ou tout, très souvent une station et une, voire deux, voire trois planètes. Certaines planètes, tu peux pas y aller parce qu'il fait trop chaud. Donc dans le jeu, il va falloir que tu trouves des minéraux qui sont contenus dans des cristaux, tu vois, que tu exploseras avec ton laser, ou en remplissant des quêtes, parce qu'il y a pas mal de PNJ sur certaines quêtes, ou même quand tu vas d'une planète à une autre, des fois, ou d'un système solaire à un autre, tu as des stations différentes, donc dans chaque station, tu as des quêtes, enfin des subquests, tu peux acheter des objets, améliorer ton armure, ton casque, et donc après, tu améliores ton armure pour résister à la chaleur, et pour te rendre dans la. Dans une des planètes que Mason te demande d'aller. Là, tu y vas, et quand tu as fini cette planète, tu as un vaisseau qui atterrit, avec comme des sortes de mercenaires, et ils essayent de te buter. Donc, bon, bah, normalement, tu les butes. Pas d'inquiétude, si tu meurs, ah oui, ça c'est pas mal dans le jeu, si tu meurs, tout ce que tu as récolté, tu l'as gardé, c'est juste que tu retournes dans ton vaisseau. Après, il te dit, soit tu prends le dernier loading, donc c'est-à-dire souvent c'est à ton pod, soit tu retournes sur ton vaisseau. Et puis, ben, quand tu veux recliquer sur la planète, ça te dit que tu l'as déjà visitée. Donc, soit tu y retournes parce que tu as envie de re-récupérer, tu vois, des éléments que tu as besoin pour améliorer une arme, une armure ou quoi, ou ben, tu passes à une autre planète. Il y a la gestion du fuel entre chaque planète, donc du coup, ben, faut penser à améliorer aussi ton vaisseau au niveau de la capacité à avoir plus de fuel. Mais bon, dès que tu rencontres une station, tu peux payer pour en remettre gratos, enfin, non, pour en remettre.
D'accord.
Tu peux aussi armer ton vaisseau, puisque des fois quand tu vas sur une planète, ça te dit oula, des mercenaires sont en vaisseau spatial. Donc là tu te fais une sorte de gunfight à la. Tu sais, la Star Wars, quand ils sont dans leur module avec les doubles canons qui vont pouf, pouf, pouf. Mais pareil. C'est exactement ça, donc c'est assez monstrueux. Ou des fois ils ont peur de toi, ils se cassent et puis voilà. Ou des fois tu tombes sur des débris, ils te disent est-ce que tu veux ouvrir Ben, l'objet que t'as devant toi, c'est une sorte de coffre. Tu fais bon, oui, non, bah ben, tu l'ouvres. Alors, si t'as du bol, bah ben, c'est comme tout aléatoire. Ben, tu récupères quelque chose, sinon bah ben, tu meurs. Mais bon, vu que tu peux recommencer, donc c'est assez rapide. Donc voilà, il y a, enfin c'est hyper complet. Puis même, il y a aussi, j'ai oublié de le dire, mais même dans les stations spatiales, des fois t'as des mini-jeux, genre le lancer de fléchettes. Donc un gars il te dit ouais, si t'arrives à toucher une cible bleue, donc t'as des dards qui sont modélisés tout en polygone. Et donc, il y a marqué drop, donc tu vises avec ton, enfin, tu vises avec ton viseur, fort quoi. Et tu essayes de toucher une des lignes bleues, enfin, un des carrés bleus, tu vois, du jeu de fléchette, de la cible. Et tu gagnes de la thune en fonction. T'as une sorte de bras de fer mécanique où tu joues avec 3-4 joysticks et tu sais, c'est les bras de robot mécanique et tu dois faire tomber l'autre bras. T'as aussi certains véhicules sur certaines planètes que tu peux louer. Et du coup, tu te déplaces soit en coup de vaisseau spécial, soit en coup de gros chat à dents de sabre, soit à coup de ptérodactyle.
Ils ont bien craqué les gars de chez Crescent Moon
Ah
Game
non,
quand même.
mais ils sont. Là, Crescent Moon Games, ils ont fait ça à fond avec c'est Blosto Studio, il me semble. Et ils sont bien. Et puis, tu as plein de références, Guy, que dans des stations spatiales, tu as des robots qui ressemblent aux robots du nouveau, tu sais, Star Wars, là, qui roulent sur une boule.
Ah oui, BB-8.
Mais ouais, voilà, BB-8, mais avec ils ont une petite
Enfin,
corne, tu vois,
BB-8, pardon, pour les puristes.
t'as une sorte de Wall-E, t'as des cyborgs un peu, enfin, il y a pas mal de références aussi à la culture geek. Le jeu coûte, alors attends, c'est en dollars 7,99, donc ça va être 8,29. Je suis pas encore arrivé à la fin, je sais pas combien d'heures de jeu que j'ai, pardon, que j'ai, oula. Je vous conseille de mettre, alors moi sur l'iPad Air 2, je vois pas de différence, mais de choisir la case, parce que moi j'ai quasiment tout à fond, parce qu'on peut quand même régler les graphismes et la distance d'affichage pour les petites machines, tu vois.
Ouais, c'est bien ça.
Et Josh, il y joue sur un iPhone 6, donc, et moi sur un iPad Air 2, de mettre l'application, de cocher la case sauvegarder votre batterie, quoi. Parce que moi ce matin, j'ai mis à jour avec iOS 11. J'étais à 70%, 63%, une heure plus tard, j'étais à 13%.
Ah ouais, la vache.
Alors que tout à l'heure, là, j'ai joué 40 minutes, j'ai perdu que 8%.
Ah oui, c'est bien ça quand même, sauvegarder la
Donc
batterie.
oui, ça. Ouais, et bon, moi, vu comme j'ai une machine puissante, je pensais que j'allais voir des ralentissements ou quoi, donc rien. Et il y a même une case que j'ai pas encore testée, c'est. Parce que je voulais plus avancer dans le jeu pour vous donner un avis. C'est dans les graphismes, c'est expérimental. Donc je sais pas ce que ça fait, j'essayerai plus tard et puis plus tard, je le mettrai à l'écrit sur le lien du podcast. Mais voilà. Donc ça s'appelle Morphite. Pour l'instant, c'est que sur iOS. Normalement, ça va arriver sur Switch aussi. Ça sort sur Steam, Xbox. Enfin, ils ont fait quasiment toutes les plateformes en un seul coup là. Donc assez intéressant. Moi franchement j'aime bien si vous aimez comme moi passer du temps à scanner des trucs. Enfin, je sais que beaucoup ont été déçus par No Man's Sky, mais là en plus vous avez un véritable scénario quoi. Parce que bon ben il y a un petit truc au bout de moment, c'est que quand tu reviens avec le Morphite, Monsieur Mason il te dit ah ben non tu vas rester sur la station spatiale et tu sens qu'il te cache quelque chose, tu vois que tu veux pas quitter, donc tu t'en vas quand même.
Par contre, spoil
Tu
pas
t'en
tout.
vas. Non 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 mais ça c'est vers le début du jeu, enfin le début du jeu. Ça dépend dans quel ordre tu fais les planètes, si tu veux. Parce que tu peux, à mon avis, tu peux faire je sais pas combien de fois des planètes sans avancer dans l'histoire, tu vois. Parce qu'elles sont procédurales en plus. Mais après,
Ah ouais,
sinon, il y a,
putain.
je crois qu'il a marqué, il a une quinzaine de planètes dans le mode histoire. Ce qui est pas mal parce qu'il y a plusieurs tailles et des fois, il y a des planètes, je vous dis, tu fais la surface, après tu vas dans les hauteurs et après, tu ouvres une grotte. Et dans la grotte, bah, tu vois que tu peux aller dans les fonds sous-marins, que tu peux scanner le poisson, la plante aquatique. Enfin, il y a de quoi faire. Et puis des fois, tu as des passages qui sont, tu vois, de grosses pierres. Alors, si sont des pierres claires avec des fois des petits cristaux dessus, tu peux tirer avec ton laser. Par contre, si c'est des grosses pierres foncées, là, il faut utiliser une grenade à ions qui t'ouvre et puis ça t'ouvre un passage, quoi.
J'entends ton propos.
Donc voilà, c'est Morphite. Enfin, je crois que vous avez compris. J'adore.
Oui, je pense qu'on a tous compris que t'adores. Je sais pas combien de temps t'as fait sur ce jeu, en fait.
Ben, je compte pas les alpha bêta, mais beaucoup. Et du coup, ben, je pense que vous allez aimer. Alors, parfois, les contrôles peuvent être un peu chiants en tactile. Genre, quand on est dans l'eau, parce qu'on, comme on voit pas trop, on sait pas trop où est le nord, le sud, tout ça. Et puis, la carte apparaît pas dans l'eau. Ça, c'est un peu l'embêtant. Alors que quand t'es sur la planète normale, t'appuies sur la carte, tu peux zoomer, dézoomer, voir où sont les passages. Puis, tu vois au bout de moment que, enfin, après, c'est des trucs logiques. Tu vois que tu peux pas, que tu peux aller à droite, que tu vois qu'il y a une civil, il y a l'air d'y avoir une civilisation qui apparaît sur ta map, mais que tu, que de, en face de toi, tu as une montagne, mais tu regardes si à gauche ou à droite, tu peux aller chercher un endroit pour monter et passer à travers. Et il y a des quêtes à la con. T'en as un, il y a une cage, tu vas le voir, il te dit oui, est-ce que tu peux attraper mon hibou et tout? Tu regardes le hibou, il est dans un arbre. Je sais même pas comment il faut faire pour l'attraper. J'ai tiré dessus, enfin j'ai.
Bah non, s'il faut
Je sais
l'attraper,
pas,
faut pas le
faut.
buter, quoi.
Ben ouais, mais j'arrive pas à monter dans l'arbre, donc moi j'ai essayé la seconde
Mais
solution.
t'as pas essayé de l'appâter avec un truc de bouffe?
Ben non, j'ai pas de bouffe, je sais pas ce qu'il faut faire, donc mais il faut peut-être monter sur un stégosaure qui traîne dans les parages. Enfin, j'essaierai, et puis. Ouais. Et, ou si vous trouvez, ben vous me le dites. Donc voilà, c'était Morphite, quoi. Et maintenant, on va passer à la petite rubrique. Et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi? Et je vais laisser la parole à Julie parce que j'ai pas mal parlé là.
Ah ouais, carrément quoi. Franchement, j'ai cru qu'on allait faire toute une émission sur Morphite.
Ouais, tu m'étonnes. Et en
Alors,
plus, attends, là, tu parlais d'un jeu, je le prends pas ce mois-ci, mais normalement le mois prochain, c'est sûr. Je le prends, c'est.
ah ouais, c'est obligé. Alors, bon, par contre, je vais essayer de ne pas être trop longue dessus, mais
Ah
c'est.
oui, parce qu'il y a trop à dire. Bah, tu fais classique, tu dis ce que c'est comme
Mais
style,
non,
ce qu'on
mais
peut faire rapidement.
chouchou, oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est Divinity 2. Divinity 2, en fait, il y en a deux, en fait. Je me suis aperçu de ça en cherchant une vidéo sur le jeu. Là, c'est The Original Sin, en fait. Et la version 2, donc pour tous ceux qui avaient aimé la version 1, bah, vous allez forcément aimer la version 2. Là, on est en plein dans la source. On est en plein dans la source. Pour les graphismes, c'est toujours aussi magnifique. C'est-à-dire que quand tu te rapproches, tu zoomes sur ton personnage, t'as l'impression de jouer avec des figurines sur un plateau. Moi, j'adore cette licence, je la trouve magnifique. Et là, le gros changement par rapport au jeu précédent, c'est qu'on peut incarner plusieurs races. On n'est pas juste limité avec des humains. On peut jouer donc des humains, des nains, des elfes, des draconis. Et aussi, on peut jouer toutes les versions mort-vivant de ces quatre races-là, en fait.
Ah, ça c'est classe.
Trop la classe! Trop, trop la classe. Et du coup, ouais, non, c'est des trucs de ouf. Bon, après, je vous spoil pas l'histoire, mais bon, bah, comme d'hab, hein, plein de quêtes, plein de quêtes annexes, plein de moult choses à faire. Évidemment, moi, je suis encore partie trop vite, donc je pense que je vais recréer un autre personnage pour faire toutes les petites quêtes annexes que je n'ai pas faites avec le premier. Et vraiment, c'est topissime, topissime, topissime. Évidemment, la même façon de jouer, le même gameplay qu'avec l'ancien truc. Alors, sauf que. Au niveau gameplay, là je suis sur mon PC, avant j'étais sur la PS4, donc il y a quelques trucs qui changent, mais grosso merdo, c'est pas mal. Enfin, on s'en sort bien, c'est toujours du point and click, tu cliques pour que ton personnage aille à tel endroit et tout ça, donc c'est pas mal, ça me convient tout à fait comme genre de jeu, et c'est sublime. Allez-y, on vous met une petite vidéo dans les commentaires, et je laisse la place à Cédric pour qu'il vous parle de ce qu'il fait en dehors du jeu mobile.
Ouais, et juste pour dire que, en fait, si vous savez pas du tout ce que c'est comme style de jeu, c'est une sorte de RPG à la Baldur's Gate. Voilà.
Ah oui, c'est vrai, oui, parce que j'ai pensé que les gens savaient, mais oui, effectivement.
Et moi, je vais vous parler de Dead Cells. C'est un jeu fait par Motion Twin, donc on connaît normalement pour les jeux sur mobile. Et Dead Cells, donc c'est un studio de jeux vidéo bordelais, donc Motion Twin. Et Dead Cells, c'est un roguelike Castlevania, mais d'une puissance. Pff, mais. Enfin, c'est d'un pixel art, mais magnifique. C'est vraiment. On avance dans des donjons, on a une flopée d'armes, mais incommensurable. En fait, on a une arme principale, une arme secondaire, qu'on peut interchanger. De toute façon, on fait ce qu'on veut. On a ensuite deux slots pour des armes, souvent 2G. Genre, par exemple, moi, en fait, on peut faire son le build qu'on veut parce que les armes, on les a aléatoirement. Sauf quand on trouve une boutique et qu'on peut acheter. Et donc c'est ça, c'est une sorte de Rockvania, Castlevania, les niveaux, à chaque fois qu'on recommence, qu'on meurt, on peut répartir les cellules qu'on récupère. Alors quand on tue un ennemi, on récupère des cellules. Ces cellules, une fois qu'on finit un donjon, on peut les répartir pour améliorer les armes, les items, gagner plus d'argent, des conditions physiques, tout ça. Et là, il y a une énorme masse de mages qui arrive. C'est franchement, si vous aimez le Castlevania, le roguelike, le pixel art, vous amusez à faire des builds de malades pour faire des combos en tout sens, que ce soit l'épée à l'arbalète, à l'arc avec des bombes, des scies qui sont par terre, du lance-flammes, des mobs qui spawnent quand ils tuent des ennemis, des boss. Enfin, allez-y, c'est disponible sur PC, c'est un vrai régal.
Eh bien, formidable.
Donc, c'est la fin de ce 152e épisode. J'ai l'impression qu'on est allé un peu vite, mais bon. Malheureusement, les gars de 8sec ne pouvaient pas rester parce qu'ils bossent sur une mise à jour, entre autres sur leur jeu, et donc, ils pouvaient pas rester jusqu'à la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, au moins.
Ouais.
J'espère que vous irez voir leur jeu Time Crash parce que moi j'adore, franchement. C'est franchement, allez-y, dépensez, allez-y dessus parce que vous allez voir que. En plus, vous n'êtes pas obligé de faire des parties longues. Enfin bref, je vais pas refaire le test. Donc voilà. N'oubliez pas, si vous aimez l'émission, pensez à le dire sur iTunes, Google Play ou n'importe quel support où vous nous écoutez. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook avec Game in the Pocket, la page Google Plus qui porte le même nom, mais de toute façon, vous aurez les liens. Le Twitter, c'est @GamesPocket. Vous pouvez nous envoyer des mails ou autres à contact@gameinthepocket.fr. Et bien sûr, l'épisode sera sur EarthisHat et TypeWright. Et voilà. Donc, je vous souhaite bon mobile gaming tout le monde et à bientôt.
À bientôt les gens!